VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir l'Afrique, Morgan Guiriec au micro et Chérubin Dorsil. Bienvenue à l'édition du jeudi 14 mai 2015. À la une ce soir.
C'est encore la confusion au Burundi, un jour après l'annonce par un ancien chef militaire de la destitution du président Pierre Nkurunziza. Alors, qui contrôle quoi? Rien n'est tout à fait clair. Ce soir, tout de même, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné le coup d'État.
République centrafricaine, libération aujourd'hui de plus de 350 enfants soldats dans la région de Bambari.
Les principaux groupes rebelles Touareg du nord du Mali ont paraphé ce jeudi à Alger l'accord de paix adopté en mars par Bamako.
Au Burkina Faso, c'est la fête chez les Sankaristes. Myriam Sankara, la veuve de l'ancien président, est arrivée ce soir à l'aéroport de Ouagadougou.
Ici aux États-Unis, le président Barack Obama tente de rassurer les États du Golfe lors d'un sommet à Camp David.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
Au Burundi, il est impossible de dire qui détient le pouvoir. Au lendemain de l'annonce de la destitution de Pierre Nkurunziza, les putschistes disent contrôler Bujumbura. Les partisans du président burundais, toujours absent du pays, assurent que la tentative de putsch a échoué. Le point avec notre confrère Léon Massengo de la radio Bonesha à Bujumbura.
En ce qui concerne le putsch, c'est toujours une confusion totale. Personne ne peut vous dire en réalité qui dirige le pays actuellement. Après plus de 24 heures de négociations accordées pour éviter, disait-il, l'effusion de sang, le Comité national pour la concorde est passé à l'offensive ce jeudi. Des combats intenses autour de la radio-télévision nationale. Très difficile de connaître le bilan pour le moment. Les journalistes ont été interdits de couvrir ces combats, jugés de faciles au début par les putschistes, mais qui se sont révélés plus difficiles plus tard. La population a peur, en petits groupes dans les quartiers, les gens échangent et se posent des questions sur l'issue de cette crise. En traitant le président destitué Pierre Nkurunziza au téléphone depuis Dar es Salaam en Tanzanie, dans un lieu inconnu, il a affirmé sur les ondes de la radio-télévision nationale du Burundi que le putsch avait été déjoué.
C'était donc notre confrère Léon Massengo de la radio Bonesha à Bujumbura. On a beaucoup parlé depuis hier du rôle de la radio nationale du Burundi dans cette tentative de putsch. Alors qu'en est-il des radios en général, surtout à Bujumbura?
C'est une journée de deuil pour les radios indépendantes Bonesha FM, RPA, Isanganiro et la radio-télévision Renaissance ce jeudi. Toutes ces radios ont vu leur matériel détruit par des policiers en pleine journée dans des explosions de grenades et d'autres explosifs. Toutes ces radios n'émettent plus pour le moment. La radio Rema FM, proche du parti au pouvoir, avait été détruite la veille mercredi. Pour les auditeurs de toutes ces radios, c'est aussi la colère sur la radio nationale RTNB, considérée comme une caisse de résonance du gouvernement aimé pour le moment et n'a diffusé que de la musique dans la mi-journée de ce jeudi. La population de Bujumbura a peur et ne sait pas et attend l'issue de ce qui est en train de se faire tout autour de la radio-télévision nationale du Burundi. Ils se demandent comment, dans deux semaines, ils pourront participer aux élections communales et législatives.
Léon Massengo de la radio Bonesha à Bujumbura.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné aujourd'hui la tentative de coup d'État au Burundi. Le vote est intervenu à la suite d'un débat dont nous parle le représentant de la France au Conseil, l'ambassadeur François Delattre.
Nous avons eu des consultations très intenses et constructives qui nous ont permis d'entendre la présentation par l'envoyé spécial, M. Djinit, de la situation sur place et qui a permis ensuite aux membres du Conseil de sécurité de marquer leur unité autour d'un message permettant la réduction de la violence, qui est notre première priorité, à tous, unanimement partagé autour de la table du Conseil de sécurité. Et autour d'un effort de l'ensemble des parties visant à renouer les fils du dialogue et à retrouver un processus politique permettant au Burundi, dans le respect des accords d'Arusha, de sa constitution, de retrouver les chemins du dialogue et de la paix.
Le représentant de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, l'ambassadeur François Delattre.
République centrafricaine, plus de 350 enfants soldats ont été libérés aujourd'hui au cours de cérémonies dans la région de Bambari. Les Séléka, majoritairement musulmans, et les Antibalaka, milices principalement chrétiennes, ont accepté de les libérer suite à un accord signé avec l'UNICEF. Il s'agit de la plus grande libération d'enfants associés au groupe armé en République centrafricaine depuis que la violence a éclaté en 2012, souligne l'organisation onusienne.
Les principaux groupes rebelles Trois Règles du Nord du Mali ont paraphé ce jeudi à Alger l'accord de paix adopté en mars par les autorités maliennes et des mouvements pro-gouvernementaux. Toutefois, la coordination des mouvements de l'Azawad réclame de nouvelles garanties avant de signer un texte définitif. Jacques Aristide.
Cette coordination qui réunit le Mouvement National de Libération de l'Azawad, le Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad et le Mouvement Arabe de l'Azawad a déjà prévenu qu'elle ne se rendrait pas à la cérémonie prévue demain à Bamako pour la signature définitive. Pour la CMA, même en paraphant l'accord dans un esprit d'équité et de bonne foi, le document ne prévoit aucun mécanisme de garantie à l'égard des violations du cessez-le-feu pour éviter toute nouvelle escalade. Paris a salué ce qu'il appelle l'esprit de paix, de réconciliation du gouvernement malien et du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Le conflit entre Bamako et les Touaregs a donné lieu à 4 révoltes armées depuis l'indépendance du Mali en 1960.
L'événement du jour pour les sympathisants de Thomas Sankara au Burkina Faso. Mariam Sankara, la veuve de l'ancien président, est arrivée ce soir à Ouagadougou. On l'écoute.
Bonsoir tout le monde, c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie que je rentre au pays. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cela, c'est-à-dire que ceux qui ont fait partir le dictateur Blaise Compaoré. Je vous remercie. En remerciant, je pense à la société civile, aux partis politiques, aux femmes, à la jeunesse, à toute la population.
Écoutons maintenant Maître Benewende Sankara, leader du mouvement sankariste et avocat de la famille Sankara.
C'est un retour triomphal. Madame Sankara revient au moment où le supposé assassin de son mari n'est plus au pouvoir. Cela après l'insurrection, c'est une revendication très forte de la jeunesse de revoir Mariam Sankara et la famille Sankara soudée, parce que c'est cette image-là qui a plané sur le Burkina dès le 31 octobre 2014 quand Blaise Compaoré a pris la fuite. Elle vient pour saluer l'héroïsme du peuple burkinabé. Elle vient pour se mettre du côté du peuple burkinabé pour continuer la lutte jusqu'à la victoire finale. Voilà pourquoi elle va en même temps parrainer la convention d'union des Sankaristes, mais elle va aussi œuvrer à la manifestation de la vérité en se mettant à la disposition de la justice.
Maître Benewende Sankara, leader du mouvement sankariste et avocat de la famille Sankara.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Nigeria, l'armée a imposé aujourd'hui un couvre-feu à Maïdougouri au lendemain de la première attaque de Boko Haram en 2 mois contre la capitale de l'État de Borno et fief historique du groupe islamiste.
Le président américain Barack Obama et des hauts responsables de 6 nations du Golfe arabo-persique ont poursuivi leur sommet aujourd'hui dans la retraite présidentielle de Camp David, à environ 100 km au nord de Washington. Au programme, la situation au Moyen-Orient, en particulier un éventuel accord sur le nucléaire iranien et les combats qui se déroulent en Irak, en Syrie, au Yémen et en Libye. Le sommet a débuté hier soir par un dîner de travail à la Maison-Blanche. Plusieurs chefs d'État ont décliné l'invitation, préférant se faire représenter par des ministres, ce que d'aucuns attribuent à leur opposition aux négociations sur le nucléaire iranien.
Après la destruction de plusieurs sites historiques en Irak, le groupe État islamique menace maintenant la ville de Palmyre, dans le désert syrien. Cette ville est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. C'est ce qu'a déclaré l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui souligne que plusieurs dizaines de civils ont été tués dans des villages proches de Palmyre.
Par ailleurs, des 10 pays arabes se sont entendus ce jeudi au Caire pour coordonner leur lutte contre le trafic d'antiquités et protéger leur patrimoine archéologique. Il s'agit de l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Soudan et le Sultanat d'Oman.
En Afghanistan, les talibans revendiquaient aujourd'hui l'attaque perpétrée hier soir contre un hôtel de Kaboul, durant laquelle 14 civils, dont plusieurs étrangers, ont été tués. Les échanges de tirs ont duré 5 heures. 3 des assaillants ont été tués, a déclaré le chef de la police de Kaboul, Abdul Rahman. L'ambassade des États-Unis a confirmé la présence d'un citoyen américain parmi les victimes.
Il y a eu aussi 4 Indiens morts selon New Delhi. Hier, un attentat suicide à Helmand a fait 10 morts et 12 blessés selon la mission d'assistance de l'ONU en Afghanistan. Enfin, le Premier ministre indien Narendra Modi est en visite dans le village ancestral du président chinois Xi Jinping, une visite qui pourrait servir à renforcer les liens économiques et diplomatiques entre Pékin et New Delhi. Voilà pour le journal.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Ce soir, la Minute Éco, c'est avec Camille Gros-Didier.
Dakar accueille cette semaine le Forum foncier mondial et à cette occasion, le vice-président du Fonds international pour le développement agricole, Michel Mordassini, a rappelé que les détenteurs d'exploitations agricoles en Afrique perdent souvent leurs terres au profit des grandes entreprises. La sécurisation foncière est un premier pas vers la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire, a-t-il souligné. Par ailleurs, des spécialistes ont plaidé en faveur du droit à posséder des terres pour les femmes. Le rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique à la Commission africaine des droits humains et des peuples, Soyata Maiga, a ajouté que les Africaines sont parfois spoliées car dépourvues de droits de succession à cause des mariages précoces qui leur dénient la capacité de participer au développement agricole. Et puis au Soudan du Sud, eh bien, démarrage de la saison des semis alors que les Nations Unies signalent des viols, enlèvements et incendies qui viennent s'ajouter aux combats parmi les plus violents en 17 mois de guerre civile. La FAO redouble d'efforts pour acheminer des semences, outils et autres intrants aux agriculteurs dans les états du Haut-Nil et de Unity.
Merci Camille pour la Minute Éco.
L'actualité sportive ce soir, c'est avec Bagassi Koura qui est avec nous en studio. Salut Bagassi, pourquoi ce sourire?
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Peut-être parce que vous êtes un ami de Raoul Savoie, parlez-nous de lui.
Oui, eh bien, ce Suisse, Raoul Savoie, a été officiellement désigné jeudi sélectionneur des Scorpions. Passé dernièrement à la tête des Fauves du Bazou Bangui de Centrafrique en fin 2014, Raoul Savoie reprend donc du service en Afrique à la tête de la Gambie, l'équipe nationale donc. Le technicien suisse de 41 ans, ancien coach du FC Sion aura pour mission de qualifier les Scorpions pour la CAN 2017. Il faudra pour cela passer par le groupe, la phase éliminatoire qui comporte dans le groupe donc qui comporte le Cameroun, la Mauritanie et l'Afrique du Sud. Premier adversaire avant cette rencontre face au Bafana Bafana, Savoie et ses hommes seront rassemblés en Ouganda.
On connaît l'affiche de la finale de la Ligue des Champions.
Eh bien, la finale de cette Ligue des Champions opposera le FC Barcelone à la Juventus de Turin. Ce sera le 6 juin prochain à Berlin, lors de la deuxième demi-finale retour hier soir. La Juve et le Real Madrid ont fait donc un match nul, un but partout. Rappelons qu'à l'aller, la Juve l'avait emporté 2-1.
Masters de Rome, c'est du tennis?
Oui, le Suisse Roger Federer, numéro 3 mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale aux dépens du Sud-Africain Kevin Anderson, battu 6-3, 7-5. Au prochain tour, chez Rubin, Federer affrontera le Tchèque Thomas Berdych ou l'Italien Fabio Fognini.
Basket professionnel, playoffs en NBA définitivement. Ça va un peu mal pour Washington?
Oui, la victoire des Hawks, 82-81, c'est quand même très serré, contre Washington, a été arrachée à moins de 2 secondes de la fin du match grâce à Al Horford, qui s'est battu pour récupérer un rebond avant de tenter sa chance au tir sous le panier. Golden State Warriors n'est plus qu'à une seule victoire de la qualification après sa victoire contre Memphis, 98-78. Peut-être que Washington pourra se racheter. Hein.
C'est un peu difficile, mais ce n'est pas impossible. Il reste encore 2 matchs.
San Antonio et peut-être bientôt sans Washington. Vous allez supporter qui alors?
Bagassi Koura. Merci hein, pour cette page sport.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Cher Urbain d'Orsil et Morgane Guiriac en votre compagnie, place au dossier du jour.
On est au Burundi qui domine l'actualité, une situation plutôt volatile. Au lendemain de l'annonce de la destitution de Pierre Nkurunziza, difficile de dire qui détient le pouvoir à Bujumbura. Les putschistes affirment contrôler la capitale, mais les partisans du président burundais, toujours absent du pays, assurent que la tentative de putsch a échoué. On écoute Willy Nyamitwe, porte-parole de Pierre Nkurunziza.
D'abord, c'est qu'il y a eu des mutins qui ont voulu faire un coup d'État et le putsch a échoué. Et maintenant, les forces loyalistes sont en train de tout faire pour amener la situation dans l'état normal.
Aujourd'hui, qui contrôle la radio-télévision nationale burundaise?
C'est l'armée loyaliste.
Et où se trouve Pierre Nkurunziza?
La question d'où se trouve le président de la République, c'est une question d'ordre sécuritaire. Je ne suis pas autorisé à vous répondre à cette question.
Mais est-il rentré sur le territoire burundais?
Je ne suis pas autorisé à vous répondre sur cette question d'une façon explicite.
Qu'est-ce que vous dites à la communauté internationale concernant cette tentative de coup d'État?
D'abord, nous félicitons la communauté internationale qui a pu condamner ce putsch, l'Union, la communauté de l'Afrique de l'Est, les États-Unis eux-mêmes, l'Union européenne, hein, et surtout cet appel au respect de l'ordre constitutionnel. Donc, jusqu'à présent, le président de la République du Burundi, c'est M. Pierre Nkurunziza, et ce jusqu'au 26 août 2015.
Que pensez-vous du général Niyombare?
Alors, le général Niyombare qui a fait ce putsch, mais ce que je pense de toute personne qui pense encore à la voie de putsch ou à la voie de coup d'État, mais c'est ce que pense aussi la communauté tant nationale qu'internationale, c'est les temps des coups d'État sont révolus. Il faut tout simplement que les gens reviennent à la raison, que les gens sachent que l'ordre constitutionnel doit être plutôt maintenu. Un officier supérieur de l'armée est censé protéger l'ordre constitutionnel et non pas être une pierre d'achoppement à l'ordre constitutionnel.
Donc encore une fois, ce jeudi matin, vous démentez tout coup d'État réussi à Bujumbura.
Il n'y a pas de coup d'État réussi à Bujumbura, il y a eu tentative, ce qu'on appelle une farce, parce que des gens qui se réveillent le matin, qui disent qu'ils peuvent prendre le pouvoir par les armes, ça ce n'est qu'une fantaisie. Donc le coup d'État, c'est qu'une fantaisie que nous avons vue ici à Bujumbura.
Déclaration de Willy Nyamitwe, porte-parole de Pierre Nkurunziza.
Et les putschistes de leur côté accusent les loyalistes d'avoir ouvert le feu ce matin à la radio nationale, et selon eux, c'est Pierre Nkurunziza qui a voulu mener un coup d'État contre la constitution burundaise. Idriss Fall a joint le général Zeno Dabaneze, porte-parole du comité militaire, qui affirme avoir destitué le président burundais.
À Radio Nationale, nous, forces légalistes, comme nous l'avons exprimé dès le départ, tentons d'aller expliquer à la position qui garde la radio, qui provient de la garde présidentielle, de ne pas continuer à émettre des messages qui vont effectivement dans le droit chemin de violation des accords d'Arusha et de la Constitution. Malheureusement, on a trouvé que cette force n'est pas encore sensibilisée pour rentrer dans la raison et a préféré tirer sur nous. Nous avons riposté pour et la radio est toujours gardée par cette force.
Et qu'en est-il au niveau de la présidence?
La garde de la présidence n'a jamais été approchée, puisque la présidence est gardée par les mêmes hommes. Nous pensons que ceux qui gardent la présidence aussi pensent toujours comme ceux-là qui sont à la radio parce qu'ils sont de la même unité.
Qu'est-ce qui contrôle l'aéroport de Bujumbura?
L'aéroport est toujours fermé, on sort toujours l'appel. Si l'aéroport est fermé, si quelqu'un atterrit et qu'il y a un problème, ça ne serait pas sur le dos du comité.
Mais si vous ne contrôlez pas la radio nationale ni la présidence, qu'est-ce que vous contrôlez alors?
Nous ne contrôlons pas la radio ni la présidence, mais nous sommes avec le peuple qui défend la légalité, qui défend la constitution et les accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation nationale.
Trois radios privées ont été détruites aujourd'hui. Où étaient vos forces alors?
Nos forces ont été attaquées après avoir accompagné ou protégé le peuple manifestant qui ont ouvert eux-mêmes la radio RPA qui était fermée. La RPA a sollicité une protection militaire. Nous l'avons fait. Nous avons fait juste 4 éléments parce qu'on ne pensait pas qu'une armée vienne attaquer une position de quatre personnes qui protègent une radio, on ne pensait jamais que les radios peuvent être voire attaquées par la garde présidentielle. Malheureusement, ils sont venus en grand nombre, comme s'ils venaient attaquer un camp militaire, et ils ont délogé nos positions, qui n'avaient pas la mission de faire combat.
Est-ce à dire que votre coup n'a pas été bien préparé? Parce que même Nkurunziza a lancé un message disant que le coup a échoué.
Nous, on n'a jamais déclaré que nous allons faire un coup. Nous avons déclaré que le président Nkurunziza n'est plus président de la République. Parce qu'effectivement, nous avons effectivement annoncé ce que la loi prévoit. Donc nous n'avons pas fait un coup d'État. Celui qui a fait un coup d'État, c'est plutôt Pierre Nkurunziza, qui a fait un coup d'État contre la Constitution et les accords d'Arusha.
Le général Zeno Ndabaneze, porte-parole du comité militaire, qui affirme avoir destitué le président burundais.
Alors, quel est l'impact des récents événements au Burundi sur la population civile? Timothée Dunangmaï a joint Karine Siroko de la Radio Publique Africaine, station partenaire de VOA Afrique à Bujumbura.
Les gens, d'abord, n'ont pas d'informations. C'est-à-dire que ne sachant pas ce qui se passe exactement, vu que les médias ne fonctionnent pas, sauf peut-être la radio-télévision nationale du pays, mais qui n'est pas en train de donner des informations claires sur ce qui se passe dans le pays. Alors les gens ne sachant pas ce qui se passe dans le pays, ils ne savent pas où et les lieux qui sont sécurisés, ils ne savent pas les lieux qui ne sont pas sécurisés. Quels sont les lieux qui sont peut-être aux mains des loyalistes, les lieux qui sont aux mains des putschistes. Et donc les gens ont préféré rester cloîtrés à la maison. Il est très difficile dans ce cas-là d'aller faire des achats, si l'on doit chercher quelque chose à manger pour la famille, si l'on doit chercher un peu d'argent parce qu'on n'a pas eu le temps de chercher de l'argent pour faire l'un ou l'autre achat. C'est très très difficile. On essaye, par exemple, dans mon quartier, on a essayé de se rabattre sur les boutiques qui sont dans les quartiers, mais les boutiques sont quasiment à sec, il n'y a plus rien, parce qu'imaginez tout le monde qui se dirige en même temps dans une même boutique, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pain, il n'y a plus de sucre, il n'y a plus d'aliments nécessaires de base qu'on peut utiliser ou donner aux enfants, donc on se débrouille avec qu'on a particulièrement à la maison, en attendant que la situation peut-être redevienne normale.
Qu'en est-il de l'eau et de l'électricité?
L'eau et l'électricité, il y en a. Tout à l'heure, quand même, il y a eu une coupure d'eau. On nous a expliqué que c'était dû aux combats qui sont en cours entre l'armée loyaliste et les putschistes. Il y a eu certains bâtiments de la régie des eaux, donc la société qui fournit de l'eau ici au Burundi, qui ont été abîmés. On n'en sait pas plus parce que là, on s'informe via les réseaux sociaux, donc on n'est pas sûr que ce soit une information vérifiée. Mais tout ce qu'on sait, c'est que dans la plupart des quartiers, il n'y a pas d'eau potable dans les robinets, quoi. Mais l'électricité, il y en a.
Merci Karine Siroko de la Radio Publique Africaine à Bujumbura.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la Radio Publique Africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Et la crise burundaise est indissociable du conflit qui embrase la région des Grands Lacs depuis des années. C'est en tout cas l'opinion de Deo Akizimana, candidat indépendant à la présidentielle burundaise de 2010 et historien. Il est joint à Bujumbura par Frédéric Kundi Kijé du service Kirundi Kinyarwanda de la VOA.
Le Burundi est au cœur d'une région troublée depuis plus de 20 ans. C'est un conflit géopolitique majeur qui secoue l'Afrique juste au-delà des frontières continentales. Et j'ai le sentiment que même si on ne le dit pas très clairement, c'est difficile évidemment à déclarer comme je pourrais le faire parce que je n'ai pas toutes les informations, mais j'ai le sentiment que la question des contrats miniers, la question du contrôle des ressources est au cœur des rivalités qui sont en train de se jouer et qui se sont manifestées à travers la question du troisième mandat.
Est-ce qu'on peut avoir des détails? Parce que là, vous nous révélez une information tout à fait nouvelle.
je suis de formation géopoliticienne, donc je cherche la vérité où elle se trouve, j'analyse les non-dits, les on-dits, etc. Et j'ai compris que dans ce qui se passe aujourd'hui, d'abord il est faux, ne le dites plus, que le Burundi est un pays pauvre. Non, c'est un pays extrêmement riche. Certaines ressources minérales qui se trouvent dans le Congo voisin se trouvent également au Burundi. Nous avons un nickel de haute qualité qui compte parmi les meilleurs de la planète. J'ai entendu d'autres découvertes ont été faites. Le lac Tanganyika est une richesse stratégique et introuvable nulle part ailleurs en Afrique, sinon qu'au Burundi, au bord de la ville de Bujumbura. Bujumbura est la seule capitale d'un pays de l'Afrique des Grands Lacs qui est riverain de ce lac Tanganyika, qui est une manne. Vous savez, c'est la deuxième réserve mondiale d'eau douce, un lac très profond dans lequel il y aurait des hydrocarbures, etc. Et vous savez que ça suscite des appétits. Vous connaissez l'histoire des guerres par procuration, des guerres où les élites locales vont se livrer à des conflits fratricides en pensant qu'ils sont opposés par des aspects ethniques, régionalistes, claniques, et j'en passe, alors qu'en réalité, ils sont en train de s'entremanger à cause de problèmes de contrôle des ressources.
Déo Hakizimana, candidat indépendant à la présidentielle burundaise de 2010 et historien.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité, Gabi.
Au Burundi, il est impossible de dire qui détient le pouvoir. Au lendemain de l'annonce de la destitution de Pierre Nkurunziza, les putschistes disent contrôler Bujumbura, ce que dément la présidence. Il faut dire aussi, Morgane, que le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné ce soir la tentative de coup d'État au Burundi.
En République démocratique du Congo, une motion de défiance a été initiée au Parlement contre le ministre de la Défense au sujet des massacres qui se poursuivent dans le territoire de Beni, dans le nord-est du pays.
En RCA, plus de 350 enfants soldats ont été libérés aujourd'hui dans la région de Bambari. Les Seleka et les Anti-Balaka les ont acceptés et ils ont accepté la libération suite à un accord signé avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF.
Les principaux groupes rebelles Touareg du nord du Mali ont paraphé ce jeudi à Alger l'accord de paix adopté en mars par les autorités maliennes et des mouvements pro-gouvernementaux.
La veuve de Thomas Sankara, Mariam Sankara, est arrivée ce soir dans l'euphorie à l'aéroport de Ouagadougou au Burkina Faso.
Réunion du G5 Sahel à Niamey au Niger. Les États membres ont affirmé aujourd'hui leur volonté de faire bloc face à la menace terroriste et au trafic de migrants.
Au Nigeria, l'armée a imposé ce jeudi un couvre-feu à Maïdougouri au lendemain de la première attaque de Boko Haram en 2 mois contre la capitale de l'État de Borno, fief historique du groupe islamiste.
Le président américain Barack Obama et des hauts responsables de 6 nations du Golfe arabo-persique ont poursuivi leur sommet aujourd'hui en la retraite présidentielle de Camp David à environ 100 km au nord de Washington.
Cette édition touche à sa fin. On remercie Issi Akaba, moi je préfère dire Am Koulel, le célèbre qui a dirigé la mise en onde, assisté de Dan Crafton à la console. Présentation Morgane Guiriac et chez Ruben Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.